Il est 19h22.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Le QI de leurs enfants, certains parents le portent à la boutonnière. D'autres s'inquiètent tellement vite d'un comportement quel qu'il soit qu'ils pensent trouver dans ce chiffre une explication rationnelle à beaucoup de choses. Et c'est souvent d'ailleurs l'une des premières questions qu'on pose à un pédopsie. Dois-je faire tester mon enfant? Mais c'est quoi au fond le QI et le test qui va avec? Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est un graal? Est-ce que c'est un indicateur? Il indique ma capacité à quoi exactement? Si le QI d'un enfant est très haut, est-ce que ça veut dire qu'il sera forcément docteur en physique nucléaire? Inversement, un QI dans la moyenne basse, est-ce que ça range immédiatement dans une autre case? Et est-ce que c'est pas ça au fond le danger? Alors qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce que ça bouge dans la vie, un QI? En tout cas dans la course à l'intelligence, la course à la performance, y a-t-il un danger à mettre une charge disproportionnée dans ces tests et leurs résultats? Faut-il au contraire tester tranquillement ces enfants? Est-ce que ça les aide à avancer? On fait des suites de nombres, on met des carrés dans les rectangles ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Delphine, c'est vous la première. Bonsoir Delphine et soyez la bienvenue.
Bonsoir, merci.
Allez-y.
Eh bien oui, donc je voulais réagir parce que en fait, nous, notre démarche pour faire passer un test de QI à notre fils, c'était pas de la curiosité ni de vouloir briller dans les salons. C'était pour en fait répondre à des problèmes qu'on avait en tant que parents, problèmes éducatifs à la maison face à un enfant qui était hyper émotif, hyper sensible et puis qui avait une mauvaise image de lui-même, un manque de confiance en lui, qui parlait même de suicide parfois, donc c'est allé assez loin. Et en fait, si vous voulez, au niveau scolaire, après, quand j'ai vu les premiers signes de décrochage scolaire, là, j'ai commencé à m'inquiéter. Et donc, en tombant par hasard sur une émission de France Inter qui en parlait, j'ai tendu l'oreille. Et là, j'ai reconnu mon fils, si vous voulez. Donc, je me suis dit, bon, il faut qu'on sache s'il est au potentiel ou pas. Et en effet, bah, il l'est. Et donc, du coup, ça nous a permis d'avoir des réponses à une multitude de questions qu'on se posait, grâce à la psychologue qui lui a fait passer des tests. Et puis, en fait, je pense qu'en fait, l'environnement après familial, sa sœur, ses grands-parents, voilà, l'environnement familial, c'est aussi important, je pense que tout le monde le comprenne, en fait, que c'est son type d'enfant qui fonctionne un peu autrement. Voilà, c'est pas une super intelligence, c'est qu'en fait, c'est manière d'appréhender le monde et de penser qui est différente. Une fois que ça, l'entourage l'a compris, et que aussi, en fait, l'enfant lui-même l'a compris, je pense que ça, c'est important que ça soit compris par l'enfant lui-même, voilà, pour qu'il comprenne ce qui se passe parfois dans sa tête. Et qu'après, voilà, bah, nous, bah, ça va beaucoup mieux maintenant. Voilà, deux ans après, c'était bénéfique, je pense.
Et ça lui va. Aussi, ça va mieux ou pas? Vous dites que vous, ça va mieux,
est-ce
que lui, ça va mieux?
Oui, oui.
Quand vous dites compris par l'enfant, ça veut dire que vous lui dites quoi, en fait, dans ces cas-là, à votre fils?
Il y a deux ans, il avait 8 ans, donc avec les mots de l'époque, c'est-à-dire qu'on lui a dit que ça servait à c'était pas, c'était pas une forme d'hyper-intelligence, mais ça servait à comprendre comment il fonctionnait dans sa tête et dans ses réactions, dans ses émotions. Et que moi, je lui ai toujours dit aussi que dans le mot haut potentiel intellectuel, il y avait le mot potentiel. Et potentiel, c'est un peu, qu'est-ce que tu en fais ton intelligence? T'as un potentiel et qu'est-ce que tu en fais après? Et donc, du coup, il faut essayer d'aller bien pour pouvoir en faire quelque chose de bien. Voilà.
Merci. Et vous l'avez mis dans une école spécialisée, si je ne m'abuse, votre enfant, c'est ça, Delphine, qu'on est toutes les deux?
Oui, là, d'accord, on a trouvé une école alternative. D'accord. Mais bon, là, en sixième, l'année prochaine, il va réintégrer l'école traditionnelle, le collège traditionnel.
Ok, voilà, merci beaucoup. Ouais. Merci pour ce témoignage, ce premier témoignage qui nous permet d'entrer dans le sujet de plein pied pour répondre à vos questions, discuter ensemble jusqu'à 20h. Franck Ramuela, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur au CNRS. Vous êtes psycholinguiste attaché au laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistique à l'École Normale Supérieure. Et bonsoir Serge Voile, vous êtes psychiatre de l'enfant et de l'adolescent. Vous êtes auteur de beaucoup d'ouvrages sur le sujet, dont Les enfants intellectuellement précoces, c'était publié chez Que sais-je. Est-ce que, je suis curieuse de ça, est-ce qu'un expliquer un comportement, au fond, c'est ce qu'a voulu faire Delphine, passe forcément par un test de QI, à votre avis, Jean-Joël ?
Alors, évidemment, je ne saurais
Gabriel,
pas...
Gabriel, pardon, je vous ai appelé Georges,
désolé. Oui, Georges, c'était le prénom de mon père, donc voilà. Ça m'ira bien quand même. Donc, Gabriel Val, en effet, c'est le bon prénom.
Tout le monde se marre derrière la vitre. Allez-y.
Oui, donc, c'est un exemple très intéressant et il faudrait un long développement. Alors, je vais essayer d'être clair en quelques phrases.
S'il vous plaît.
Ce que nous dit cette dame, c'est que son enfant a des difficultés, qu'il est testé et que sur la base de ce qu'il a au QI, il pourrait y avoir une explication de ses difficultés.
Ouais.
Mais je ne peux pas l'exclure, en effet, qu'il y a un lien entre un haut QI, un haut potentiel et des difficultés, mais le plus souvent, les enfants qui ont un potentiel n'ont pas de difficultés, ils n'ont pas de décrochage scolaire. Statistiquement, un haut potentiel ne décroche pas scolairement. Donc là, j'ai le sentiment qu'il se pourrait qu'il y ait une suratribution des difficultés au haut potentiel. Et qu'en réalité, les bons diagnostics... la bonne perspicacité des difficultés de cet enfant n'est pas été révélée parce que le haut potentiel a servi d'écran explicatif. Et je voudrais raconter une petite anecdote.
Allez-y.
Puisque cette dame est dans une école alternative, pour reprendre son expression.
Ouais.
Donc, moi, j'ai une maman donc dont l'enfant est dans une école pour enfants surdoués. Je le suis pour une toute autre raison, pour un autre problème. Et un jour, je lui dis, je pensais qu'elle allait me gronder. Je lui dis un peu par provocation, je lui dis, mais dans le fond, tous les enfants qui sont dans cette école et qui ont des problèmes, ils ne le sont pas parce qu'ils sont surdoués, ils le sont parce qu'ils ont d'autres problèmes. Mmh. Elle m'a répondu, mais bien sûr.
Franck Ramu, au fond, on se rassure parfois chez les parents, parce qu'on a besoin, effectivement, comme le disait Gabriel Wall, d'avoir une explication, donc on se rassure. Et à la limite, pourquoi pas, d'ailleurs. Et visiblement, ça a apaisé cette famille, donc au fond, tant mieux à la fin. Mais c'est aussi une manière de se rassurer, en fait.
Oui, bien sûr. Les gens qui ont des problèmes cherchent toujours des explications à leurs problèmes.
C'est bien humain, ouais.
Et ils sont souvent prêts à en accepter assez rapidement, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. C'est un petit peu... Ce cas illustre toute la différence qu'il y a entre raisonner sur des cas particuliers et essayer de faire des statistiques sur la population. Donc, chez cet enfant en particulier, il y a une co-occurrence du haut potentiel intellectuel et de troubles émotionnels ou comportementaux. Et donc, quand on regarde seulement cet enfant, on a l'impression que les deux sont intimement liés. Mais quand on regarde la population générale, en fait, il n'y a pas d'association.
Est-ce qu'il faut... moi, je trouve intéressant, à chaque fois, je posais la question beaucoup ce soir, je crois, est-ce qu'il faut le dire à l'enfant ? Qu'est-ce qu'on lui dit, en fait ? Est-ce que ce n'est pas un très très lourd fardeau de lui mettre sur les épaules « Tu as un haut potentiel, mon fils ?» Ou au contraire, ça l'aide à avancer. Enfin, c'est vraiment une question.
C'est peut-être un lourd fardeau pour les parents.
Ouais.
Mais si on dit à un enfant qu'il est intelligent et qu'il a de bonnes chances de réussir scolairement et qu'il peut regarder l'avenir avec confiance, je ne crois pas que ce soit un discours particulièrement offensant ou douloureux.
On n'est pas obligé de lui dire, en fait. Hein. Il faut lui dire si ça remplit une certaine fonction. Si, par exemple, c'est un enfant qui a un trouble des apprentissages, comme une dyslexie ou... un trouble de l'attention, mais qui, à côté de ça, a un haut potentiel intellectuel, le fait d'avoir ce haut potentiel intellectuel, ça lui permet d'avoir de l'espoir, ça lui permet de restaurer son estime de soi et de se dire, d'accord, j'ai des difficultés dans tel domaine, mais quand même, je vais pouvoir faire des études, etc.
Allez, on file au standard parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Bonsoir Vincent.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Ma question, c'était donc, quels sont les paramètres sur lesquels sont basés les tests de QI, sachant que, donc, c'est entre guillemets subjectif, pour moi, une personne, je vais citer deux exemples, une personne, un enfant qui naît aborigène dans le bush australien, l'intelligence n'est pas degré de connaissance. Et va donc avoir peut-être peine connaissance par rapport à son environnement, par rapport à tout ce qui l'entoure, même des connaissances qui pourraient lui être enviées. Et pour citer un deuxième exemple, je vais citer le mien, moi je suis maçon, là je me suis amusé à faire quelques tests de QI sur Internet. Il y a beaucoup de logique, il y a beaucoup de visuels. Moi c'est des paramètres que j'ai quotidiennement, sur mon travail quotidien. Donc voilà. Quelle est la pertinence, véritablement, des tests de QI et sur quoi sont-ils basés ?
En voilà une question pertinente, justement, Gabriel Wall. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette question, c'est est-ce qu'on teste de la même manière dans tous les pays, en fait ? Donc, est-ce qu'on mesure, au fond, la même chose ?
Très probablement, je ne connais pas ce qui se passe dans tous les pays du monde, mais il y a un test presque universel qui est le WISC ou le Wechsler, et qui est bien sûr adapté à chaque culture. Par exemple, en France, il y a peut-être pas de questions sur des sujets gastronomiques de tel ou tel pays, mais c'est quand même adapté. Alors, la question de ce monsieur est intéressante.
Moi, j'aime bien cette comparaison entre l'aborigène qui vit donc dans son bouche et
nous l'avons connu en France, l'aborigène. Il y a 30 ou 40 ans, on a fait passer un test à un berger qui était complètement illettré. Et pour ce qui est du verbal, c'est-à-dire de tout ce qui correspondait à la culture scolaire, à la connaissance des lettres, il était évidemment plutôt nul. Mais pour tout ce qui est des tests non-verbaux, qui faisaient appel à ce qu'on pourrait appeler l'intelligence rationnelle pure, il avait été tellement brillant que quelques années après, il apprenait à lire, il passait le bac, de ce que je sais de lui d'il y a 20 ans, il était professeur à l'université. Donc, un aborigène qui passe un test, naturellement, il ne sera peut-être pas très doué si on l'interroge sur les fables de La Fontaine, mais il pourra quand même montrer son intelligence dans d'autres domaines, d'autant que les tests, en principe, balayent tous les champs de la rationalité intellectuelle. En tout cas, c'est leur tentation d'aller dans toutes les directions.
Mais justement, qu'est-ce qu'on teste, en fait, Franck Ramus? C'est ma capacité à quoi que je vais retrouver dans ce chiffre, en fait?
Ouais, donc la mesure de l'intelligence, c'est pas quelque chose de subjectif, c'est quelque chose que 100 ans de recherche en psychologie se sont efforcés de rendre la plus objective possible. Mais évidemment, dans certaines limites. Ça n'est qu'un instrument de mesure, et ça a une certaine fiabilité, etc., qui est forcément limitée. Donc, qu'est-ce que ça mesure? Ça vise à mesurer l'ensemble des fonctions cognitives de la personne humaine, à la fois des capacités verbales, des capacités non-verbales, des capacités de raisonnement, la rapidité de raisonnement, etc. Et on fait une mesure, une espèce de moyenne de toutes ces capacités. Et évidemment, quand on teste dans différentes cultures, on essaye d'adapter les tests à chaque culture pour pas défavoriser telle ou telle population. Et évidemment, on rencontre des limites quand on va chercher des cultures qui sont tellement éloignées de la nôtre. Là, on parlait des aborigènes australiens, que là, du coup, la situation même de test n'a même plus de sens pour eux. Donc évidemment, ils risquent d'avoir des scores très très bas. Ça veut pas dire qu'ils sont complètement idiots, ça veut juste dire qu'ils sont pas adaptés au test. Et a fortiori, s'ils sont pas scolarisés, la scolarisation, c'est quand même le meilleur moyen d'améliorer l'intelligence des enfants.
Donc ça bouge un QI?
Bien sûr. Disons, le QI, le problème, il y a plusieurs échelles de QI. Il y a l'échelle qui est relative à l'ensemble de la population, avec la moyenne qui est à 100. Quand on le rapporte à la population, le QI est relativement stable. Mais les performances, les scores bruts, eux, évidemment, ils progressent tout au cours du développement de l'enfant.
Et on va y revenir, je voudrais qu'on écoute Laurence avant. Bonsoir Laurence.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, moi j'ai un fils qui a été diagnostiqué précoce, mais qui va avoir 30 ans la semaine prochaine. Donc il y a une époque où c'était pas très médiatisé. C'est une émission de Jean-Luc Delarue, j'ai cru découvrir mon enfant en regardant ça. Voilà, et en fait, ça l'a mis dans des cases à partir de ce moment-là. Et l'école était déjà compliquée parce qu'il s'est désintéressé dès l'instant où il a su lire. En fait, il a cherché par lui-même les informations dont il avait besoin et l'école était un cauchemar. Il emmenait des livres, il lisait en douce, etc. Il séchait l'école, très petit. Et on a essayé de le mettre dans une école spécialisée, mais il y est arrivé en redoublant sa sixième. Il est avec des enfants bien plus jeunes que lui. Ça n'allait pas non plus. Il a fini par être déscolarisé à 12 ans, parce que les collèges, l'inspecteur le filait toutes les années d'un collège à un autre. Il passait en conseil de discipline, ça allait crescendo. Pour finalement, les éducateurs après ont fait un boulot, parce que moi j'avais fait un courrier au juge pour dire que voilà, on avait un enfant de moins de 16 ans déscolarisé et on savait pas quoi faire. Et il a été pris en charge avec une action éducative, quoi, en milieu ouvert, et jusqu'à ce qu'il puisse travailler, en fait. Et puis, il enchaîne les petits boulots. Et puis, il y a eu l'école 42, où il a passé la sélection tout seul, sans rien dire. Et puis, finalement, quand il a su qu'il allait à Paris faire ce qu'ils appellent la piscine, Comme par hasard.
L'école 42, c'est celle de Xavier Niel, c'est ça?
Ouais. C'est ça, c'est ça. Et il devait partir, donc il est parti pour les 4 semaines, mais comme à chaque fois qu'il tombe quelque chose un peu qui lui fait peur, enfin voilà, parce qu'émotionnellement, je pense qu'il y a un gros problème, et ben il s'est mis en échec, et voilà, il a eu un accident, enfin qu'il a provoqué, hein. Il avait une brèche au cerveau, etc., un hématome sous-dural. Il est quand même allé passer les 4 semaines. Il a tenu jusqu'au bout les derniers trucs et il n'a pas été pris après à la dernière sélection de la fin. Voilà, et c'est lié un peu l'histoire de sa vie, cette histoire de précocité. Alors maintenant, je pense qu'il y a une prise en charge différente, parce qu'on connaît mieux, mais voilà.
Mais Laurence, est-ce que vous pensez que les choses se seraient passées différemment s'il ne l'avait pas connu réellement,
exactement,
en fait?
Vous pensez vraiment? Parce que j'ai 2 autres enfants que je trouve très intelligents aussi, et ils vivent tellement mieux. Et voilà, et c'est un enfant qui est encore malheureux, et qui, je pense, émotionnellement, ça l'a paralysé pour se construire. Et il y a peut-être d'autres choses, mais on a vu tellement de psy que je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre. Les autres vont bien, lui mal, enfin bon. Et au jour d'aujourd'hui, il est presque incapable de faire face à un chagrin d'amour, par exemple. C'est ce qu'il vit en ce moment.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Laurence. Gabriel Walsh, cette phrase de Laurence, il est parasité par cette découverte.
Dans le témoignage de cette dame, ce que je retiens, c'est qu'elle a 2 autres enfants qui sont peut-être tout aussi intelligents que celui dont elle nous parle, mais peut-être qu'elle ne s'est pas autorisée à en parler parce qu'elle est tellement persuadée, parce que c'est le décor idéologique ambiant, que lorsqu'on est très intelligent, on est malheureux. On ne donne donc témoignage que des gens intelligents malheureux. Ce qui fait que il se pourrait que par devers nous, cette émission conforte l'idée selon laquelle quand on est très intelligent, on est forcément très malheureux, tout simplement parce que nous n'aurons que des témoignages de gens intelligents malheureux. J'aurais préféré qu'elle nous parle des gens très intelligents heureux, puisqu'apparemment elle a 2 autres enfants qui n'ont pas de soucis.
Allez-y.
Oui, mais elle ne pourra pas parce que leur QI n'a pas été testé. Oui. Vous voyez d'où vient ce biais de perception. Ouais. On ne parle que des enfants ou des adultes à haut QI qui sont malheureux, qui sont en échec, qui sont inadaptés, etc. Tout simplement parce que ceux qui ont un haut QI et qui vont bien, ils ne passent jamais de leur vie un test de QI. Ils ne savent jamais qu'ils ont un haut potentiel. Moi, je les retrouve comme élèves à l'école normale supérieure, mais ils ne savent pas qu'ils ont un haut QI. C'est juste le résultat de leur haute capacité.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est donc Laurence avant qui a vu une émission de Jean-Luc Delarue à l'époque, donc qui a été voir. Il y en a un autre précédemment qui nous a dit « j'ai fait les tests sur Internet ». Ça aussi, peut-être, et donc peut-être qu'on contribue, nous, à ça, en faisant cette émission, après tout, maintenant, aujourd'hui. Mais ce qui nous emmène, au fond, parfois, vers le test, n'est pas forcément la bonne raison, en fait. Et ça m'arrache un peu de le dire, mais le téléphone sonne n'est pas forcément la meilleure raison non plus pour envoyer son enfant faire un test, au fond.
Oui, mais surtout, ce qu'il faut bien retenir, c'est l'idée que lorsqu'un enfant brillant n'a pas de difficultés, eh bien, on ne téléphone peut-être pas au téléphone sonne pour dire « j'ai un enfant brillant, mais il est très heureux dans la vie ».
Mais s'il appelait quand même...
Il y a un biais, si j'ose dire, de recrutement.
Appelez quand même, en tout cas ce soir il y a du monde. Céline,
mais par contre, on peut faire un appel. Peut-être que des parents nous écoutant pourraient nous dire « j'ai un enfant qui a un QI à 140 et qui est magnifiquement heureux dans la vie, je n'en reviens pas parce que partout ailleurs, on explique que quand on est très intelligent, c'est l'apocalypse.
Et ben,
si on avait un témoignage comme ça, ce serait formidable. Et
mais pourquoi l'aurait-il testé? Il n'y a aucune raison.
Ils auraient pu le tester pour le plaisir, par exemple.
Eh ben, l'appel est lancé, on verra si dans 20 minutes, d'ici à 20 minutes, on a ce genre d'appel. Bonsoir Céline.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, Céline.
Merci. Alors moi, je suis psychologue dans l'éducation nationale dans les Hautes-Alpes. Et du coup, je voulais donner mon témoignage en fait en tant que professionnelle où on nous envoie effectivement beaucoup d'élèves à tester. Alors c'est vrai que ça fait 10 ans que je pratique cette profession. Alors au début de ma carrière, on me demandait plutôt de tester des élèves pour des problèmes de quotient intellectuel plutôt bas, pour aller vers des enseignements adaptés. Et au fur et à mesure, la pratique évolue et on nous demande de faire des bilans pour attester qu'il y a bien une dyslexie, une dyspraxie. Et là, ça fait 2 ans où c'est plutôt, entre guillemets, la mode des hauts potentiels, où effectivement, toutes les demandes de bilan qu'on a, c'est pour attester qu'un élève est haut potentiel et qu'on doit trouver des aménagements. Alors malheureusement, quand même souvent, c'est que ces élèves n'ont pas forcément le quotient intellectuel, entre guillemets, ou les indices qui disent qu'on puisse dire qu'il est vraiment au potentiel. Et c'est souvent dévastateur aussi. en fait. Mm-hmm. Donc, les pronostics qui peuvent être faits des fois par les familles et certains professeurs peuvent être pas toujours bons. Et quand on arrive avec notre grosse batterie pour faire passer le whisky, eh ben, on peut casser un petit peu des illusions aussi, quoi.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Gabriel Wall. C'est intéressant, intéressant ce témoignage et aussi l'idée de ce qu'on se fait de son propre enfant, en fait.
Oui, ce qui est très intéressant, c'est que l'idée selon laquelle lorsqu'on a un haut potentiel, on a nécessairement des difficultés dans l'existence, ou au minimum des difficultés d'apprentissage, fait qu'on a retourné le paradoxe jusqu'au bout, et on peut arriver à cette expression, s'il est dyslexique, s'il est en échec scolaire, s'il a des difficultés, c'est parce qu'il est certainement haut potentiel. Et donc on fait passer un test, et en effet, comme le dit cette psychologue, c'est parfois dévastateur, parce que évidemment la désillusion est grande, si en effet le QI n'est pas à la hauteur de l'ambition, si j'ose dire, des parents ou des enseignants.
Souvent, c'est pour les parents que la désillusion est plus grande que pour l'enfant. D'ailleurs, Franck Ramé, peut-être non, qui lui, il mettait moins de charges, finalement.
Oh ben, les enfants, en général, ils n'en pensent même pas. Ils savent même pas ce qu'ils font quand ils passent le test. Mais oui, les parents, disons, quand l'enfant a des difficultés, il peut y avoir plein d'explications possibles. Ça peut être un trouble cognitif, un trouble des apprentissages, un trouble mental. Ça peut être, il peut être victime de harcèlement. Hein. Et donc, évidemment, à dire qu'il est au potentiel, c'est forcément une explication plus valorisante que tous les autres troubles.
Alors tiens, ce mail sur franceinter.fr, le test de QI a permis de mettre le doigt sur la dyspraxie de notre fils. Sans ce diagnostic, il serait encore en échec scolaire, donc au moins c'est une bonne nouvelle pour ce monsieur-là. Une nouvelle lubie, nous dit cet autre auditeur sur franceinter.fr, incroyable, le monde des parents qui pensent que leur enfant est un génie et qui font leur test de QI, c'est ridicule et ça peut être parfois violent pour l'enfant. Donc on entend les deux, évidemment, Franck Ramu.
Oui, je trouve le témoignage sur la dyspraxie est intéressant parce que il montre le véritable usage des tests de QI finalement. Les tests de QI sont pas là pour expliquer tous les problèmes du monde ni pour faire des compétitions. Ils sont là pour participer à des diagnostics. Quand un enfant a des difficultés au niveau cognitif, on doit faire un diagnostic pour savoir s'il est dyslexique, s'il est dyspraxique, s'il est autiste, etc. Et pour tous ces diagnostics, on a besoin de comparer les difficultés qu'il a dans tel domaine, avec l'ensemble de ses compétences intellectuelles. Et donc, le QI sert à ça.
Bonsoir Sébastien.
Oui, bonsoir.
Bienvenue Sébastien.
Je vous remercie. Oui, je me permettais de vous appeler parce que moi, j'ai trois enfants, qui ont entre guillemets haut potentiel, mais je me suis toujours refusé de leur faire passer des tests parce que je ne sais pas qu'on leur mette une cylindrée comme on met une cylindrée sur une voiture. Mais malheureusement, pour mon dernier enfant, j'étais obligé de le faire parce qu'il était au collège. Et on n'a pas laissé le choix, donc il a fait un test de QI. Et donc, ce que nous pensions, ça s'est vérifié à travers le test de QI. Et aujourd'hui, il a sauté une classe, comme ses frères et sœurs, et il est très heureux, et nous aussi, et on a un enfant épanoui, et nous aussi nous le sommes. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine mode, effectivement, de faire passer des tests à ses enfants, peut-être pour rassurer les parents. Ou peut-être pour faire du bien, mais nous, c'était pas du tout cette démarche, et je vous avouerai que j'y suis allé vraiment à reculons.
Et pourquoi vous avez été obligé de faire ce test, Sébastien ?
Parce que c'est l'académie qui nous le demande. Arrivé au collège, l'académie nous demande de passer par ce biais pour pouvoir évaluer nos enfants. Et je suis toujours pas, convaincu par la situation, mais bon, écoutez, nous n'avons fait que suivre ce qu'on nous a demandé de faire.
Merci. Alors,
ça peut être, si les résultats scolaires sont excellents, ça peut être posé comme condition pour s'assurer que les résultats scolaires excellents et qui permettent éventuellement un saut de classe, parce que l'enfant s'ennuie, parce que l'enfant maîtrise déjà la classe supérieure, ça peut être une condition pour accepter le saut de classe.
C'était ça ou c'était pour tout le monde, Sébastien, en fait ?
Non, tout à fait, parce que les résultats étaient excellents.
D'accord.
Mais je dirais qu'il avait plus des problèmes de comportement, dans le sens où ce que les enfants faisaient en une demi-heure, lui faisait en 10 minutes. Et c'était plus pour vérifier ceci, mais ce que monsieur a dit, effectivement, c'était le cas. C'était ça.
En tout cas, pardon, allez-y, Franck Ramu.
Oui, donc ça montre un autre usage possible et légitime des tests de QI, qui est dans le cas où un enfant semble très en avance sur son niveau de classe et où il semble préférable pour lui soit de sauter une classe, soit de lui offrir un programme un petit peu enrichi, eh bien, ça sert à vérifier qu'effectivement, il a bien les compétences intellectuelles pour aller plus vite, plus loin.
Il y a un email intéressant de cet auditeur qui nous dit « J'ai un enfant précoce, mais lorsqu'on nous a donné le résultat, on ne nous a pas donné les clés pour l'aider à avancer. » Gabriel Wall, là-dessus. Est-ce qu'il faut donner des clés? En fait, y a-t-il des clés ou simplement le laisser pousser, sachant que
les, les clés, je ne sais pas si c'est le mot que je retiendrai, mais en tout cas, on peut commenter un test d'intelligence et insister sur le fait que c'est une chance. C'est une chance d'ailleurs terriblement injuste, en tout cas pour ceux qui ne sont pas dans les sommets. C'est une, la distribution inégale de la nature pour l'essentiel, puisque l'intelligence est quand même pour une grande part d'origine génétique. Et on peut préciser qu'il y a aussi quelques faiblesses. Par exemple, un enfant surdoué peut, à certains moments de sa scolarité, être en souffrance, notamment à la période du collège, où l'intelligence et la qualité des résultats scolaires peut être une contre-valeur. Donc, il sera en disharmonie amicale avec le groupe.
Quand je pense à, quand je vois cette question sur le donner les clés, je pense aussi à les savoir, une famille où est-ce qu'il y a les bons bouquins dans la bibliothèque, est-ce que ça va le faire avancer assez vite, est-ce que je dois l'autoriser à aller sur internet plus souvent pour telle et telle raison, aller dans tel endroit, on voit pas assez de musées, on voit pas assez de films, enfin, il y a cette espèce de pression aussi qui peut tomber sur les parents, puisque mon enfant a un haut potentiel, est-ce que je lui donne le maximum pour le développer, en fait, Franck Ramu.
Mais en fait, à propos de donner les clés, enfin, tout dépend, les clés de quoi, je sais pas quelle était le contexte de cette question. Si l'enfant en question était en difficulté, dans ce cas, il est fort probable que les scores de QI ne donnent pas de clé pour l'aider. Et pour aider vraiment cet enfant, il faut comprendre la nature même de ses difficultés. Est-ce qu'il est en dépression? Est-ce qu'il est hyper anxieux? Est-ce qu'il est phobique? Et donc, ça appelle d'autres diagnostics que le seul test de QI.
Gabriel Well, vous avez dit tout à l'heure que l'intelligence était génétique.
Pour partie, oui.
Pour partie, je voudrais qu'on écoute Elisabeth d'abord et on y reviendra à ça après. Bonsoir Elisabeth.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Alors, moi, je voulais témoigner sur la pertinence des tests de QI. Alors, nous sommes une famille de 4 personnes, donc mon mari et mes 2 petites filles de bientôt 5 ans et 8 ans. Et nous avons passé des tests de QI un peu par hasard, très récemment, sachant que je suis tombée une fois sur un article concernant le témoignage d'une personne qui avait été victime d'un burn-out et qui, à l'occasion de sa, en fait, de sa convalescence, s'était fait détecter HPI et en fait de là a découlé beaucoup de réponses à ces questionnements et à ces troubles. Voilà. Donc on a commencé à creuser la question avec avec mon mari, sachant qu'on s'est toujours trouvé très décalé par rapport à la réalité de la société, enfin par rapport à nos valeurs morales, etc. En fait, pour vous expliquer rapidement, on a complètement changé de vie à cause de ça d'ailleurs. En déménageant de la région parisienne à partir de postes très bien rémunérés et très, on va dire, très dans le système, entre guillemets, d'ingénieurs. Et nous sommes venus dans le Puy-de-Dôme faire l'école à la maison à nos filles parce qu'on savait bien que de toute façon, le système éducatif n'allait pas déjà nous convenir à nous et certainement pas à nos filles. Enfin, c'était l'intuition qu'on avait. Et donc, en faisant ces tests de QI, qui ont été très enrichissants pour nous parce que essentiellement, on avait eu, au-delà des calculs et des tests à proprement parler, une vraie interaction avec la psychologue. C'est allé beaucoup bien au-delà des tests en eux-mêmes. Donc on a eu la réponse grâce à ces tests à tout notre questionnement et à pourquoi on a senti les choses telles qu'on les a vécues. Voilà. Donc moi je voulais avoir aussi un témoignage très positif par rapport à tout ça. On a été assez bluffés en fait par l'intelligence de ces tests, si j'ose dire. Voilà, c'est-à-dire que à partir de tests quand même un peu basiques a priori de logique, d'empilage de cubes, de chiffres, de questions de culture générale assez bateau, on était assez bluffé de voir comment on pouvait en déduire des façons de fonctionner qu'on retrouvait par ailleurs chez nos filles, sachant que nos filles aujourd'hui elles sont à peu près à 2 ou 3 ans d'avance sur le programme, alors que bon on n'est pas à un rythme effréné du tout quoi. Et en les laissant en apprenant à leur rythme et avec nos méthodes à nous, elles arrivent tout à fait à des performances et dans le plaisir surtout tout à fait remarquables.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Elisabeth. Deux choses. Gabriel Wall, d'abord sur les tests sont bien faits, en effet. Enfin, j'imagine que c'est des choses qui existent depuis très longtemps, depuis, d'après ce que j'ai lu, 1904 ou quelque chose comme ça.
Oui, absolument. Voilà. C'est une invention française, d'ailleurs. Mm-hmm. Et si on connaît un petit peu l'histoire des tests, c'est une invention exceptionnelle, puisque au 19e siècle, pour apprécier l'intelligence, on se contentait de regarder s'il y avait des bosses sur le crâne, par exemple, avant qu'Alfred Binet ne découvre une autre méthode pour mesurer l'intelligence. Donc, c'est 100 ans de recherche. Les tests que nous utilisons actuellement correspondent à quelque chose de très sérieux, avec une méthodologie très approfondie.
Moi, ce qui me frappe dans le témoignage d'Elisabeth, mais pas seulement en fait, parce que vous disiez tout à l'heure, Gabriel Wall, que c'est mieux d'entendre des gens qui sont heureux d'être intelligents, et heureusement, mais en voilà une famille de gens heureux d'être intelligents a priori, mais à chaque fois j'entends parler de décalage, en fait, et y compris les parents qui témoignent pour leurs enfants parlent de décalage. Est-ce que ça veut dire que quand on a un très haut potentiel, on est forcément en décalage avec le reste du monde?
C'est quand même très étonnant. Ça dépend du décor social. Si vous êtes très intelligent et que vous êtes dans une école plutôt bourgeoise où le recrutement se fera sur la base du talent, vous serez dans une situation assez homogène. Si vous êtes brillant, que vous aimez à 8 ans l'astrophysique, puis qu'autour de vous on ne s'intéresse que qu'au football ou au Pokémon, par exemple, c'est des enfants me racontent cela, par exemple, évidemment ils sont un peu malheureux, parce qu'ils ont l'impression d'être dans un univers qui ne leur ressemble pas, ils ont du mal à trouver des points communs avec les camarades, donc ça peut être une source de souffrance, mais c'est quand même quelque chose qui ne doit pas être considéré comme central. Je veux dire, on peut être brillant, avoir 8 ans, être en primaire et être très heureux de son sort.
Y a beaucoup de questions autour du type d'intelligence qui sont décelées au fond quand on est qualifié de haut potentiel. Est-ce qu'on parle d'une intelligence académique? Est-ce qu'on parle d'une autre forme d'intelligence? Qu'est-ce qu'on fait de la sensibilité? Qu'est-ce qu'on fait de l'émotionnel, etc. Quel est, je sais pas si c'est, je sais pas comment on fait pour expliquer ça. Quel est le type d'intelligence réellement, Franck Ramu, qu'on met en avant dans ces moments-là?
Il y a beaucoup de théories sur différents types d'intelligence, etc. En fait, la seule notion d'intelligence qui soit scientifiquement validée, c'est la notion d'intelligence générale, c'est-à-dire la moyenne de toutes les fonctions cognitives de notre cerveau. Et ce que veut dire cette intelligence, c'est une forme de performance. Hein. On fait de la performance dans des tests. Donc ça veut dire que ça n'englobe pas tout ce que fait l'être humain. L'être humain, il a aussi des émotions qui ne participent pas à la performance. Il a aussi une personnalité, une manière de se comporter, une manière d'agir, ça c'est distinct de l'intelligence. Donc voilà, l'intelligence, c'est une facette de l'être humain, c'est la facette performance cognitive.
Bonsoir Didier. Didier, comme ça fait 19 minutes qu'il attend, le pauvre Didier. Ah voilà, bonsoir Didier. Allez-y, on vous écoute.
Bonsoir. Oui, alors je voulais commencer pour exprimer, on dit souvent, je pense, qu'on n'est pas plus malheureux que les autres, qu'on vit tout un peu plus fort, voire beaucoup plus fort que les autres, et y compris le bonheur. Donc parler de bonheur ou de malheur me semble être un petit peu limitatif. Par contre, voilà, moi j'ai bientôt 52 ans, j'ai passé le test il y a un an, suite à un certain nombre d'épreuves vécues, qui a montré que j'étais THQI. Et,
donc très haut potentiel intellectuel. Très haut, c'est ça. D'accord,
et
ok.
En fait, rétrospectivement, ça m'a permis de comprendre énormément de choses sur lesquelles j'avais mis des mauvaises interprétations depuis le début de ma vie. Et c'est pas seulement un centre d'intérêt qui fait qu'on s'intéresse à l'astrophysique plutôt qu'au Pokémon. Je pense que c'est aussi une façon différente d'appréhender le monde dans lequel l'intelligence intellectuelle n'est qu'une toute petite part. Et de savoir, et de comprendre et d'informer la population sur cette réalité, ça permettrait certainement de lever les fantasmes et de simplifier la vie qui, quand même, est rendue sacrément compliquée par ces décalages permanents qu'on ne sait pas comment exprimer, comment expliquer justement parce qu'on n'a pas les clés. Moi, j'ai les clés depuis un an, et depuis un an, je décrypte ma vie passée. Je me dis, cette pédopsie que ma mère m'avait envoyé voir à l'âge de 7 ans, si elle avait été un peu formée, peut-être que ma vie aurait été différente. Et moi, je pense que je réussis pas trop mal ma vie, mais avec des difficultés qui sont vraiment, vraiment, vraiment complexes. Et juste une dernière petite chose.
Allez-y.
Je suis professeur d'enseignement artistique spécialisé. L'année dernière, j'ai repéré un élève dont je pensais qu'il avait ce genre de profil. Je lui ai demandé s'il avait déjà passé un test psychologique. Il m'a répondu oui, que les résultats étaient positifs, à savoir qu'il était au-dessus de la moyenne, au-dessus de 130. Et en fait, je lui ai demandé, est-ce que tu sais, j'ai vu son père, je lui ai demandé, est-ce que vous savez ce qu'est un zèbre? Est-ce qu'on vous a donné des clés? Est-ce qu'on vous a proposé des lectures? Et là, non, mon fils a un traitement à prendre tous les jours, point. Bon, il avait effectivement un trouble, un TDAH, donc une hyperactivité relative, mais au lieu d'être cadré, au lieu de leur donner de la matière pour comprendre et accompagner, ben voilà, il se passe rien, prends ton médoc, et puis t'inquiète pas, ça va bien passer. C'est pour ça que votre intervenant m'a, je suis désolé, un peu agacé à plusieurs reprises depuis le début de l'émission, en voulant absolument à toute force dissocier le fait d'être TDAH, d'être
à potentiel, à haut potentiel,
du fait des difficultés, tout ce que ça correspond, tout ce à quoi ça correspond en effet en matière d'émotion, de relations sociales et de fonctionnement général, non seulement de l'intellect, mais de toutes nos capacités.
Merci Didier. Ah. Va vous répondre Gabriel Wall,
je vais essayer,
qui vous a parfois,
je voudrais pas l'agacer davantage.
Un peu agacé.
Si on prend l'exemple du TDAH,
c'est
un exemple tout à fait intéressant parce que la distribution de l'intelligence pour les enfants TDAH est la même que la distribution de l'intelligence en général,
pardonnez-moi,
trouble, voilà, c'est ce qu'on appelle communément l'hyperactivité, qui est en fait un trouble attentionnel plus qu'une agitation. Eh bien, vous avez des TDAH qui sont déficients, des TDAH qui ont une intelligence moyenne, des TDAH qui ont une intelligence supérieure. Et donc, il n'y a pas de lien de cause à effet entre l'intelligence et le TDAH. Et donc, le fait de faire un rapprochement, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité scientifique.
Mais dans les mots qu'il emploie, Didier, on vit plus fort que les autres, on a une manière différente d'appréhender le monde, on a l'impression que, effectivement, on est forcément différent quand on est plus intelligent. On est forcément sur là tel que Didier nous le décrit, on est vraiment quasiment dans un autre monde en fait quand on est à ce niveau-là. Vous en dites quoi, vous, Gabriel Wall?
Simplement.
C'est ce que j'entends quand j'entends Didier.
Oui, j'en dis simplement que il n'a pas précisé de quel décalage il s'agissait. Mais s'il a en effet une sensibilité particulière, une sensibilité poétique, une sensibilité qui le met peut-être en souffrance face au drame du monde un peu plus que les autres, ce n'est pas nécessairement lié à l'intelligence. Il se pourrait qu'il ait d'une part une sensibilité un peu douloureuse et que par ailleurs il soit intelligent. Mais il existe des gens très intelligents, très brillants, qui ont l'esprit très léger, qui ne pensent, je pousse un peu, mais qui ne pensent qu'à s'amuser, qui n'ont pas forcément beaucoup d'état d'âme métaphysique, etc., etc. Donc, il n'y a pas nécessairement de lien entre ses tourments et son décalage et sa grande intelligence.
Une dernière petite question, on n'a pas le temps de la prendre, Martine, mais je voudrais vous la lire, sa question. Le Dauphiné Libéré a mis en ligne une étude disant récemment que les QI de nos enfants baissaient à cause de l'excès d'usage d'écran. Est-ce que oui ou non c'est vrai, Franck Ramu?
Non, à ce jour.
Ça joue sur le QI, en gros, c'est ça le sens de la question.
Bon, d'abord, il n'y a aucune preuve à ce jour que le QI des enfants baisse. Il y aurait eu plutôt une tendance à la stagnation. Le QI a beaucoup monté au cours du XXe siècle et maintenant ça commence à plafonner, mais il n'y a pas de signe que ça baisse véritablement. Est-ce que les écrans ont un effet sur le QI? Il y a quelques études qui montrent que ça a peut-être un petit effet négatif, mais extrêmement petit en vérité.
Allez, ben on finira sur cette bonne nouvelle du coup. Merci beaucoup, merci à tous pour vos nombreux appels comme d'habitude et portez-vous bien tout de suite.